Le SNCL, le Salon des maires et des collectivités locales du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, on est toujours au SNCL, Salon des maires et des collectivités locales, juste à côté du pavillon où a lieu d'ailleurs le congrès des maires de France. On est ravis d'être avec vous. On va parler d'un sujet, on l'a eu tout à l'heure d'ailleurs sur le plateau. On va parler du logement des jeunes actifs et du logement des seniors. Alors, c'est intéressant de faire un parallèle finalement entre les deux. On le retrouve sur le plateau d'ailleurs, il est avec nous puisqu'ils ont préparé un atelier avec des élus locaux comme on les aime. Mario Baston, le patron d'Enéal, est avec nous. Salut Mario.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien.
Ça s'est bien passé?
Très très bien.
Bon, bah, c'est super. On va justement débriefer pour nos auditeurs et pour ceux qui nous regardent. J'ai le plaisir d'accueillir également le maire de Laon qui est avec nous sur le plateau. Il s'appelle Éric Delay. Bonjour.
Bonjour.
Delay ou
Éric Delay, c'est très
voilà,
bien.
Voilà, Éric Delay, merci d'être avec nous. Voilà, maire de Laon et Jérôme Biot, maire de Grasse. Merci Jérôme d'être avec nous. Ça se passe bien?
Merci, je suis très content d'être à votre antenne.
Et nous avons une invitée qui s'est greffée sur la table ronde. Je suis ravi de l'accueillir sur le plateau. Véronique Binet, vous êtes avec nous.
Bonjour.
Comment ça va?
Très bien, merci.
Alors, vous êtes à la tête de Plaisance Alter Ego.
De Plaisance Alter Ego.
Tout à fait. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Alors, on en a parlé tout à l'heure avec Mario. On va faire l'intro. Le logement des jeunes actifs et le logement des seniors, il y a presque une corrélation entre les deux. Parce qu'en fait, finalement, elles posent les mêmes problématiques dans une certaine mesure.
Oui, souvent, ce sont des populations à revenus modestes. Les jeunes, ils commencent à rentrer sur le marché de l'emploi, ils ont des petits revenus. Et les seniors, souvent, ils ont des revenus qui ont baissé. Donc, ils se retrouvent en difficulté pour trouver un habitat adapté. Les jeunes, ça va être un habitat qui va être évolutif, qui va leur permettre d'avancer dans la vie, des petites surfaces, et puis qui va leur permettre ensuite d'évoluer. Et puis les seniors, il leur faut un habitat adapté, qui leur permette aussi de rester à domicile, d'avoir un logement qui leur permette de rester en toute autonomie, mais toujours avec des loyers adaptés à leurs revenus. Et là, on s'y retrouve finalement. Et on se retrouve aussi avec des personnes, souvent, ce ne sont pas des familles, ce sont des personnes qui sont souvent seules pour les jeunes ou en couple, mais de jeunes, il n'y a pas encore les enfants. Et pour les personnes âgées, souvent, les personnes se retrouvent seules hein, parce qu'une des deux est décédée. Et là, il faut trouver des solutions. Et là, ça se rejoint assez bien. Et vous avez certainement en parlé. C'est pour ça qu'on rejoint très bien le sujet des colocations, le sujet de l'intergénérationnel. Et c'est tous ces sujets-là que le groupe Passion Logement est capable de traiter et arrive à traiter aussi sur tous les territoires.
On voit bien d'ailleurs, parce que le contexte, hein, je rappelle juste comme ça pour donner les éléments, c'est presque une double peine, puisque les jeunes actifs qui arrivent sur le marché, qui arrivent souvent dans les métropoles, se trouvent confrontés finalement à des problématiques d'accès au logement, parce qu'effectivement, soit la configuration contractuelle ou le statut, parce qu'il faut savoir que 85% des personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi ont un CDD avec un minimum d'un jour, enfin, juste comme pour rappeler quand même des éléments. Et parallèlement à cela, les seniors voient fondre finalement à l'âge de la retraite, une fois que la retraite est à liquidité, une partie de leurs revenus, et se posent la question finalement à la fois de la pérennité de leur logement. Est-ce qu'on peut vieillir en copropriété? Est-ce qu'on peut vieillir chez soi? Comment adapter le logement? Et quel rôle finalement la municipalité, les élus ont pour régler ce sujet? Je vais commencer par vous, Éric. Éric Delay, maire de Laon. Alors, je sais que vous êtes très sensible à ce sujet. En plus, vous êtes président de la communauté d'agglo des Pays de Laon. Comment... C'est pas évident quand on est un élu local, finalement, d'intégrer ces nouveaux paradigmes, j'allais dire presque de transformation d'anthropologie urbaine. Je m'explique. On voit qu'il y a des démographies parfois qui sont plutôt positives, où on voit un vieillissement de la population qui est exponentiel. On sait qu'en 2030, on va atteindre un palier qui est très inquiétant. On a presque l'impression, c'est la question que j'ai posée à Mario tout à l'heure, on a presque l'impression que les politiques, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, l'exécutif, n'ont pas forcément bien pris corps de cette réalité qui va s'imposer à nous. La question, c'est pourquoi, finalement, on en a pris finalement si peu confiance. Et finalement, quand on y réfléchit bien, les seuls capables finalement d'interpréter ce phénomène à portée de réalité, ben, c'est vous les maires, les élus locaux.
Les maires sont effectivement dans la proximité immédiate avec leur population.
et ce phénomène, effectivement, alors dans une ville moyenne comme Laon, on l'observe, il est extrêmement prégnant. Dans une ville centre comme la mienne, j'ai à la fois une population très jeune et une population très âgée. Et les classes d'âge intermédiaires, souvent, sont parties en périphérie de la ville. Ils sont parties dans le périurbain, dans des lotissements en périphérie, parce que les charges de centralité sont effectivement importantes. Et donc, à la fois, j'ai des populations jeunes en formation, alternantes, ou qui commencent à travailler ou au chômage, mais avec des très faibles revenus. Et puis, j'ai des populations seniors, là aussi avec des faibles revenus, et avec des logements peu adaptés, effectivement, à leur vieillissement, et qui recherchent des produits qu'ils ont bien du mal à trouver sur la ville. Et donc, il faut pouvoir apporter, effectivement, des réponses pertinentes à ces populations dans nos villes. Il faut avoir des propositions de typologie de logements adaptés à leurs besoins, à leurs usages, qu'on n'a pas bien souvent. Il y a eu des grands mouvements de défiscalisation immobilière qui nous ont touchés hein, dans nos villes moyennes dans les années 80-90. Beaucoup de découpes d'immeubles, une surabondance.
Ça n'a pas toujours été une réussite. Hein.
Et ça n'a pas été effectivement une réussite.
Ça a même été délétère pour certains quartiers.
Et donc, absolument. Et donc aujourd'hui, j'ai une vraie vacance de logement. J'ai à la fois une vacance dans le parc social.
On a des chiffres ?
Et j'ai une vacance dans le parc privé. Oui, on a des chiffres, on a des niveaux de vacances qui sont importants. Dans le parc social, j'ai plus de 700 logements vacants sur la ville. Et je dois avoir 15-20% dans une partie du parc privé. Alors, selon les quartiers, hein, mais souvent c'est dans les centres-villes. Dans les centres-villes anciens, on a une vacance qui est très importante parce qu'on a du logement qui est inadapté, parce qu'on a du logement qui est insalubre, indigne, dégradé.
Qu'il faut requalifier,
dans des typologies qu'il faut requalifier avec des programmes de réhabilitation lourdes qui génèrent des déficits d'opérations qui sont très importants et trop importants et où on a du mal à faire venir les opérateurs privés. Moi, j'ai énormément de mal à faire venir les opérateurs privés.
Ah, mais je vous comprends.
Donc, on essaie de travailler avec, effectivement, les offices OPH, les ESH, le groupe Plaisance, pour apporter des solutions, effectivement, à ces problématiques de nos populations jeunes et seniors.
Quelle est la courbe démographique de Laon aujourd'hui, du pays de Laon ?
Non, elle n'est pas positive. On a une population qui stagne, voire en légère baisse. C'est globalement dans le département de l'Aisne, on perd de la population.
Combien d'administrés sur l'agglo ?
44 000 sur l'agglo, entre 25 et 26 000 sur la ville centre. C'est une ville-préfecture qui a énormément souffert des restructurations et des réformes de l'État. Et je pense notamment au plan Armée 2000. C'était une ville de garnison, une ville de caserne. On a perdu 3 casernes, notamment sur Laon. Donc on a eu énormément de départs de familles, effectivement, de la ville. Et ce qui, effectivement, nous a conduit à perdre de la population, donc de l'attractivité, bien évidemment.
Jérôme Mio, quand vous entendez votre collègue, finalement, en plus, vous êtes sur deux endroits du territoire, de la métropole, très intéressant. Parce que qu'est-ce que ça vous évoque ? Et justement, comment régler ce problème ? Tout à l'heure, je vous disais hors antenne, souvent, et c'est vrai, j'étais très surpris, mais en même temps, il faut dire les choses comme elles sont. Il y a un côté Paris-Paris, vous savez, souvent, Paris descend, etc. Donc nous, dans la presse nationale, on se dit, tiens, et je parlais de Grasse récemment à mes collègues de la presse nationale, des grands titres de presse, qui me disaient, Grasse, c'est une ville de vieux, quoi. C'est une ville où on va à la retraite. Bon, je sais qu'on vous l'a fait 40 fois, celle-ci, mais...
C'est vrai.
Mais alors que, et quand je me suis intéressé à votre territoire, c'est pas du tout ça en fait en réalité. Est-ce que justement on pâtit pas aussi, au même titre que Laon avait eu cette image de ville de garnison, pour l'attractivité des territoires ? C'est pas évident quand on est maire d'une ville et qu'on veut travailler son attractivité territoriale ou changer les clichés que l'on a sur la ville de Grasse. Est-ce que ça vous évoque, vous, Jérôme Bio ?
Écoutez, moi d'abord je suis content d'être à votre antenne, ça me permet de parler au maximum de personnes pour leur dire de venir voir Grasse et de venir découvrir cette ville qui est formidable, qui a une histoire très forte, qui vient d'être reconnue au patrimoine immatériel de l'humanité, sur ses savoir-faire, sur la transformation. Et aujourd'hui, Grasse est tout sauf une ville de seniors. C'est une ville qui accueille le monde entier, où des grands groupes comme Louis Vuitton, Dior, L'Oréal, Lancôme, Givaudan viennent s'installer et viennent générer de la force économique, de l'attractivité. Je crois que la presse nationale s'intéresse de plus en plus à cette ville qui est à la fois atypique et qui porte une véritable force quand on parle à Londres, à New York, à Tokyo, à Zurich, de Grasse, on pense tout de suite au parfum. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de remettre en perspective.
Qui était merci Patrick Suskind, hein. Vous l'avez tous lu. Hein.
Ouais, tous. Voilà. Et peut-être que voilà, ça a été un petit peu oublié pendant des décennies. Aujourd'hui, ma responsabilité, c'est de mettre ça en lumière comme un avantage concurrentiel. Une fois qu'on a dit ça, le sujet, effectivement, du vieillissement de la population ou de l'habitat en centre historique reste entier. Et on a pris le pari de dire qu'on a un centre historique qui fait 10 hectares, qui est immense. On a une ville de 55 000 habitants et une agglo dont je suis le président qui fait 120 000 habitants. Ce territoire, il mérite qu'on y mette toutes nos forces et on a décidé d'utiliser cette force de l'avantage concurrentiel autour des savoir-faire du parfum, de la cosmétique et des biotechnologies.
Des bio,
et pour y fixer de l'enseignement supérieur. Alors l'EDEC de Lille vient s'installer dans le cœur de ville, l'université de Nice avec un master focal de chimie, l'école supérieure du parfum vient s'installer, l'ISIPCA de Versailles sur l'école des nez. Voilà. On est dans cette démarche où on veut capter de la vie estudiantine parce que c'est ce qui va régénérer le problème de la population qui vieillit, tout le monde l'a. Dans le département, on a un département d'un million d'habitants et vous l'évoquez, à 5-6 ans devant nous, les choses, elles vont basculer avec un doublement des plus de 70 ans. Et soit on est dans une démarche d'anticipation pour fixer des énergies et des forces nouvelles, soit on va subir ça de plein fouet. Donc c'est pour ça qu'on est dans cette dynamique et on veut changer cette image qui n'est pas forcément fausse, mais pour laquelle je travaille maintenant depuis 6 ans, pour montrer qu'on a une vraie dynamique et un élément d'attractivité fort.
J'aimerais... c'est intéressant, vos points de vue, parce que finalement, vous disposez même... vous étant une ancienne ville de garnison, finalement d'un trésor patrimonial, d'une existence identitaire patrimoniale, je pèse bien mes mots, existence identitaire patrimoniale, sur laquelle on peut capitaliser, mais à plusieurs niveaux. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Jérôme, c'est que la place du parfum, finalement, c'est l'identité. C'est un peu, vous savez, il n'y a pas une ville au monde où on ne connaît pas la ville de Cognac. Cognac, c'est une petite ville.
C'est vrai.
Mais tout le monde connaît Cognac. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut capitaliser sur cette image, au-delà, finalement, d'un best-seller célèbre, où on parle de cette belle ville, outre aussi l'emplacement géographique quand même assez privilégié, c'est quand même très agréable à vivre hein, chez vous. Et donc du coup, effectivement, vous arrivez à dépolariser. Oui, par exemple, j'apprends quelque chose, c'est que qui se doute aujourd'hui que vous avez une agglo aussi importante ? Qui se dit qu'il y a 55 000 habitants ? Finalement, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui fait, à un moment donné, Jérôme Biot, que de l'extérieur, on a une image parfois un peu tronquée des villes moyennes, si je peux me permettre l'idée de voilà, Guillaume, dont vous êtes aujourd'hui l'élu local.
Il n'y a peut-être pas eu suffisamment aussi d'explication du rôle de Grasse dans les Alpes-Maritimes. On a, je le dis parce que c'est important, Grasse est le chef-lieu d'un arrondissement, une sous-préfecture de 550 000 habitants. Ce n'est pas neutre. 550 000 habitants pour un arrondissement, ce n'est pas neutre. On a aussi, dans ce département des Alpes-Maritimes, des fortes compétitions territoriales. À 16 km, vous avez des villes comme Cannes, à 20 km, des villes comme Antibes, où vous avez une offre qui est immense et pour lesquelles nos villes de strates de 50 000 habitants et qui ont leurs difficultés, à la fois financières et à la fois structurelles, doivent faire face et lutter avec des grandes forces, avec des polarités importantes. Voilà, dans les autres départements de France, on n'a pas peut-être ces proximités à 15 km et peut-être qu'il faut faire 2 heures de route avant d'aller d'une préf à une sous-préf. Nous, on a ces proximités-là qui nous plongent dans des compétitions des territoires qui sont puissantes et pour lesquelles Grasse a choisi d'utiliser son histoire. Il y a des gens qui payent des cabinets pour faire des storytelling.
C'est vrai.
Nous, on a la chance de dire on est les héritiers de tout ce que ceux qui nous ont précédés nous ont laissé. La culture de la plante à parfum, le maraîchage, l'industrie de la parfumerie, le luxe, la cosmétique, les biotechnologies. On est les héritiers de ça. Eh bien, faisons une force de ça. Et aujourd'hui, eh bien, quand on rencontre Bernard Arnault, quand on rencontre des personnes qui veulent développer de l'enseignement supérieur, quand on rencontre des personnes qui veulent développer de la cosmétique, eh bien, il y a une résonance particulière. Et c'est le rôle du maire aussi que de prendre cet avantage concurrentiel pour le mettre en perspective au service du territoire.
On va revenir aussi sur les problématiques auxquelles vous êtes confrontés, ce qui est lié à la mixité des populations, des mixités sociales, parce que souvent on catégorise finalement les villes en disant des villes moyennes, des villes de pauvres ou des villes de riches, etc. Je caricature un peu, mais je ne suis pas loin parfois de la réalité. Véronique Binet, directrice de Claisance Alter Ego, vous êtes déléguée territoriale dans l'Aisne. Alors justement, vous allez nous expliquer un petit peu le rôle que vous avez. Alors merci de vous être greffé d'ailleurs sur la table ronde. Justement, on va faire un peu de com' autour de ce que vous faites. Quelle est la mission d'Alter Ego ?
Préalable, et comme le disait Mario, on est au service effectivement des territoires, et donc moi j'ai effectivement la lourde tâche d'être déléguée au territoire de l'Aisne. L'Aisne représente un département dit rural, vous parliez de caricature parfois, rural, avec des villes moyennes, dans lequel la moitié de notre patrimoine, qui est important, on a plus de 25 000 logements sur le territoire axonais, qui est pourtant un territoire dit rural. Donc il y a une forte présence du logement social. Il y a eu un engagement très fort de Claisance et d'Action Logement sur un désinvestissement. Il a fallu avoir le courage, en ce qui nous concerne, de dire que notre patrimoine n'était plus adapté aux besoins de nombreuses villes, et de dire ben, on va désinvestir. Et tout à l'heure, Mario disait on met des fonds et Action Logement, mais des fonds importants pour pouvoir se réadapter aux besoins du patrimoine. Et pourquoi on a créé Alter Ego, aux besoins partant des territoires. Pourquoi on a créé Alter Ego, c'était de dire, c'est répondre aux besoins très spécifiques. Parce qu'effectivement, nous avons des populations qui vieillissent. Donc, c'est pas parce qu'il y a des logements vacants, notamment dans le logement social, qu'il ne faut plus en reconstruire et adapter notre parc aux besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort, et qu'il est parfois difficile de faire admettre, y compris à l'État, de dire on a encore besoin de financement de logements sociaux sur notre territoire, parce qu'il faut qu'on réponde à des besoins très particuliers liés à chaque ville, et à chaque ville moyenne, mais petite ville aussi, ce qui nous concerne. Et donc de pouvoir adapter. Et pourquoi Alter Ego ? C'est que l'idée, c'est de co-construire et avec chaque élu et chaque territoire, les logements qui répondent aux besoins particuliers du territoire. Et nous aussi, par exemple, nous avons des étudiants qui sont alternants et qui viennent travailler dans nos entreprises, parce qu'il y a quand même de l'agroalimentaire d'une manière assez importante sur notre territoire, des entreprises connues et reconnues, et qui ont besoin aussi de spécialistes et qui ont besoin de se loger et de loger leurs alternants et d'en accueillir, par exemple. Mais aussi les personnes âgées qui ont très faibles ressources et qui ont besoin de logement social, mais de logement social avec du service, comme peut le faire Emily aussi. Donc c'est de répondre, de s'adapter et de répondre vraiment à l'échelle d'un territoire.
Donc finalement, c'est un peu, une, je ne vais pas dire une boîte à outils, mais un support qui permet à la collectivité, en fait, de construire les dossiers. On parlait d'ingénierie d'ailleurs tout à l'heure avec Mario. Ouais. On est d'accord, c'est de l'ingénierie.
C'est
Mario.
Tout à fait ça.
Oui, c'est ça. C'est d'être en capacité, le groupe Action Logement est en capacité d'ouvrir sa boîte à outils et puis de trouver toutes les solutions possibles. Voilà. Ce qu'on sait qu'on ne doit plus faire, c'est travailler en silo. Et le fait d'avoir dans sa boîte à outils des filiales sur tous les territoires, des filiales spécialisées, d'avoir des structures comme Action Cœur de Ville, on est en capacité de répondre à ça. Le tout, c'est de s'ouvrir, d'en discuter. Et avec les maires, c'est ce qu'on cherche à faire. Et puis de trouver des solutions.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, Mario, et je voudrais les maires, vous faire réagir sur cette question. En 2030, 20 millions de personnes seront âgées de plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Contre 15 millions actuellement. On l'a dit tout à l'heure, on a redonné les chiffres, mais c'est intéressant ces chiffres. 4 800 000 Français auront dépassé 85 ans, soit trois fois plus qu'actuellement. Le vieillissement de la population indique deux choses. Il va y avoir 14 millions de seniors de plus de 65 ans, 94% vivent chez eux. 80 000 logements se révèlent seulement adaptés à ces seniors-là. Très franchement, moi je suis journaliste. Quand je vois ces chiffres, d'abord, on est toujours très surpris par la réalité de ces chiffres. On dira ce qu'on voudra, mais les chiffres, eux, ne mentent pas. Vous connaissez déjà ces chiffres. Les trois questions de fond qu'on a examinées avec Mario Bastone tout à l'heure dans son interview, c'était l'adaptation à l'accessibilité des logements. C'est crucial. L'isolement et la perte du lien social qui génère effectivement, qui est un facteur anxiogène majeur, notamment dans des villes moyennes, qu'on a aussi observé. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans les grandes métropoles, mais c'est assez flagrant au niveau de la réalité. Et effectivement, confronté à cette redynamisation des centres-villes et la revalorisation notamment des commerces de proximité, dont le rôle finalement est d'intégrer cette notion de lien social. Éric Delay, comment, alors vous, je sais que vous y coltinez au quotidien. Comment vous abordez cette réalité politique? Et est-ce qu'encore une fois, vous avez le sentiment qu'il... Vous savez, souvent, on a parlé de plan Marshall, justement, sur le vieillissement des populations, sur comment bien veiller en copropriété et adapter les logements. Est-ce qu'on y est ou est-ce qu'on n'y est pas? Est-ce que le compte y est aujourd'hui?
Non, pour l'instant, le compte n'y est pas, c'est très clair. On essaie d'apporter plusieurs réponses. Il y a l'adaptation du parc social avec l'office public HLM qui a mis en place un programme Opal Adapt pour pouvoir, au fur et à mesure, faire une adaptation effectivement des logements du parc social au vieillissement de la population. Il y a l'action qu'on mène avec les propriétaires bailleurs ou les propriétaires occupants avec Action Logement, avec l'opération programmée d'amélioration de l'hôpital au Paru qu'on a mise en place. Action Logement, l'ANA, la ville, la communauté d'agglomération, on finance des adaptations effectivement de logements pour les seniors. On finance
vous êtes dans le plan d'action cœur de ville. Hein.
Oui, absolument. Oui. On finance des copropriétés pour pouvoir y implanter des ascenseurs. Alors, je pense dans le secteur gare, hein, où on a une forte demande d'occupation des populations seniors.
La transformation des salles de bain en salles de douche.
Absolument, tout à fait. Voilà. Mise en place d'ascenseurs aussi dans des copropriétés de la reconstruction d'après-guerre.
Vous savez que 80% des accidents domestiques ont lieu dans la douche ? Alors, ont lieu dans les salles
absolument.
De bain.
Eh oui, complètement. Et puis, production, enfin effectivement aussi, aménagement de nouveaux, construction de nouveaux logements, de résidences seniors, de résidences intergénérationnelles, comme le projet qu'on a actuellement avec Claisance dans le quartier Gare. Voilà tout un ensemble de solutions. Il faut penser aussi à l'espace public. La question de l'adaptation de l'espace public au civilisement de la population est importante. Avoir des trottoirs suffisamment larges.
Les problématiques de mobilité.
Avoir des bancs publics. Avoir des toilettes aussi dans l'espace public. Les problématiques, effectivement, de mobilité et d'offre de transport, voire de transport à la demande pour les populations périphériques. Voilà, enfin, il y a tout un ensemble de solutions à mettre en œuvre pour s'adapter au vieillissement. Mais je trouve que ça va pas assez vite, effectivement.
Alors, justement, j'aimerais qu'on reprenne les caractéristiques du territoire sur lequel vous êtes. Pourcentage de logements sociaux sur le parc locatif?
Plus de 50%, 56 ou 58%.
Ah, quand même.
Sur la ville, enfin sur la ville.
Sur la ville.
La ville-centre. Beaucoup moins, évidemment.
Et sur l'agglo? Sur l'agglo, vous êtes à...
Sur l'agglo, je n'ai pas le chiffre global, mais il y en a beaucoup moins.
Ok. C'est un pourcentage élevé?
C'est un pourcentage très élevé, bien sûr.
Est-ce que ça veut dire que le niveau social de vos administrés est plutôt un niveau de revenu modeste, voire très modeste?
Oui, très modeste. Oui, très absolument. Modeste. Ah oui, absolument. Tout
est-ce,
à fait.
Est-ce qu'on dit de Langres que c'est une ville pauvre?
Je ne veux pas qu'on dise que c'est une ville pauvre. Mais effectivement, c'est pas une ville riche.
Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que, Jérôme, vous êtes à côté. C'est que vous parlez de Grasse. C'est vrai qu'on vous le dit, on dit c'est la ville pour les riches.
C'est vrai.
Et on dit qu'il y a des territoires. Mais c'est pas le cas. Vous avez raison, parce que beaucoup de jeunes, des étudiants, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont alternants, qui sont adaptés par le truc. Et ça, c'est des choses que j'ai découvertes. Parce qu'effectivement, moi aussi, j'ai changé un peu mon scope, etc. Alors que quand je vois l'emplacement finalement territorial dans la géographie de notre pays, mais vous êtes super bien placé pour des investisseurs.
Oui, je suis d'accord avec vous, c'est vrai.
On pour a l'industrie, été, pour on les services, on a été pour la proximité avec les grands centres urbains.
Mais on a échappé souvent aux grandes dynamiques d'aménagement du territoire. Les politiques d'aménagement du territoire se sont centrées sur
alors
les métropoles.
Là, on va aller sur un sujet.
Et on est aujourd'hui, nous, on a été en dehors de ces influences métropolitaines.
Bah oui.
On est à 50 km de Reims. Et on était un peu dans l'angle mort du rétroviseur.
Ben, oui, mais
effectivement,
on peut le dire.
Que soit Lens, Soissons, Saint-Quentin, on a souffert de désindustrialisation dans les années 90, de la réforme de l'État et des services de l'État, du départ des garnisons. Et on est resté un peu à l'écart de ces grandes dynamiques métropolitaines. Et on était loin de ces aires d'influence entre Lille, Reims, Paris, l'Île-de-France. Donc très compliqué, effectivement, pour des territoires comme les nôtres. Mais je pense qu'il y a un changement de paradigme aujourd'hui.
Pour quelle raison?
Vous avez raison, on est plutôt bien situé.
Vous êtes super bien situé.
Il y a un après-Covid qui est très clair et qui s'observe très nettement. Avant le Covid, on avait un marché de l'immobilier qui était complètement atone sur notre territoire. Plus rien ne se vendait. Les prix au mètre carré dans l'ancien aujourd'hui, c'est... Allez, 1 000 euros du mètre carré.
Ouais.
Depuis un an et demi,
très juste.
À peu près, il y a vraiment une nouvelle dynamique. Il y a de moins en moins de produits en stock et dès qu'il y a des produits qui rentrent en immobilier, ils partent dans les jours, voire une semaine, deux semaines qui suivent, ils partent très très rapidement. il y a un retour de l'investissement immobilier sur nos territoires, dans nos villes moyennes. Il n'y a pas que moi qui l'observe, hein, mes collègues des autres villes l'observent. Ce changement de paradigme...
C'est les Rémois qui investissent sur vos territoires,
Les Parisiens. Les Franciliens, les Parisiens.
Qui se disent finalement, on est quoi, 1h30 de Paris ?
Oui, 1h30 de Paris. Très clairement, il y a une volonté de rechercher une qualité de vie différente et à proximité de Paris, à 1h30 maximum de Paris. On a lancé, à la sortie de la crise, au printemps dernier, on a lancé une grande campagne d'attractivité avec une agence de Limoges. Ce n'était pas simplement une campagne de communication. Ouais, c'était une campagne d'attractivité « Venez vivre à Laon », avec un site « Venez vivre à Laon », un Facebook « Venez vivre à Laon », un ciblage aussi qui a été fait marketing digital. On a plus de 400 familles qui se sont inscrites sur le site « Venez vivre à Laon ». Le principe, c'est qu'un certain nombre d'entre elles pouvaient gagner un week-end à Laon. Il y en a une dizaine, 11 qui ont été sélectionnés, qui sont venus passer un week-end au mois de mai, qui ont rencontré Pôle emploi, qui ont visité des biens immobiliers et à qui on a fait découvrir la ville. Et un certain nombre ont fait le choix de venir s'installer à Laon. Alors on continue à les suivre, on a collecté les CV, on les transmet dans nos entreprises, parce que même si on a un taux de chômage élevé, on a aussi beaucoup d'entreprises qui recherchent aujourd'hui des salariés et qui ne les trouvent pas.
Il a combien le taux de chômage aujourd'hui ?
Il est... 13% à peu près sur le territoire. Oui, oui, il est plus élevé que la moyenne nationale, très clairement. Et donc, cette campagne a très très bien marché. On observe ce changement de paradigme. À l'occasion, on a pu recruter une médecin gériatre pour l'hôpital de Laon. Au cours du week-end, on lui a obtenu un rendez-vous avec l'hôpital et elle est revenue avec son contrat de travail en disant « je commence dans un mois », alors qu'on avait vraiment une difficulté en gériatrie de trouver des médecins. Et donc, cette campagne a vraiment très bien fonctionné. On continue à suivre toutes ces familles qui veulent aujourd'hui quitter principalement la région Île-de-France. On avait des gens de Lille, on avait des gens d'Amiens, on avait des gens, quelques personnes de Reims. Et donc aujourd'hui, on essaie de mettre en avant effectivement la qualité de vie, le cadre de vie, la nature, le patrimoine, la culture, l'événementiel. On est dans des villes à dimension humaine. Il y a de l'humain dans nos villes.
Mais il faut financer tout ça,
bien évidemment.
Action Logement a cette particularité, il faut le rappeler à nos auditeurs, il faut vraiment marteler. C'est que Action Logement, qui n'a pas finalement, si je peux me permettre de dire, d'actionnaires à rémunérer, si je peux me permettre de le dire, n'a qu'un seul et unique objectif, c'est affecter ses ressources à la réalité territoriale. Ça change tout, mine de rien. On a parlé tout à l'heure de Visa, vous savez, avec Jérôme Drouin, quand on voyait, c'est 582 000 foyers depuis 2016 qui ont bénéficié de la garantie Visa. Ça a l'air de rien, mais sans cette garantie, vous n'accédez pas au logement. Donc c'est intéressant ce que vous dites. Et, alors, je ne veux pas aller sur le terrain politique pour ne pas vous mettre en porte-à-faux, ce n'est pas l'objectif. Mais j'observe quand même une baisse quand même assez inquiétante des dotations aux mairies sur les 10-15 dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on vous retire finalement des recettes alors qu'on vous attribue de plus en plus de charges, voire de compétences, il n'y a pas quelque chose qui rend schizophrène les lieux locaux que vous êtes ?
Je vais pondérer votre propos.
Oui, je suis peut-être un peu trop offensif.
En fait... Finalement, enfin, les dotations d'État n'ont pas baissé et se maintiennent pour une ville comme Laon, pour une ville centre comme Laon. Pourquoi ? Parce que les baisses de ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement, cette dotation d'État, sont compensées par l'augmentation de la dotation de solidarité urbaine, ce qu'on appelle la DSU.
Mais j'ai du mal à faire le calcul.
La dotation de solidarité urbaine, elle est liée aussi au niveau de pauvreté de la ville. Et effectivement, c'est aujourd'hui ces dotations de solidarité qui maintiennent le niveau de dotation pour des villes comme les nôtres, pour les villes-centres. Par contre, là, vous avez raison, c'est sur les intercommunalités. On a des baisses de dotation d'État qui sont très significatives d'année en année. Oui. Et très rapidement, effectivement, on va voir s'amoindrir nos capacités d'autofinancement. Et quand on s'amoindrit dans l'autofinancement, ce sont nos capacités d'investissement qui se retrouvent considérablement réduites.
On a même vu, sans citer les intercommunalités en question, on a vu des baisses jusqu'à 40%.
Bien sûr.
Jérôme Biot, je vous voyais plutôt être d'accord sur l'idée. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part... Alors, encore une fois, je ne veux pas qu'on fasse de politique, mais c'est la première fois dans les 5 dernières années où j'ai vu des maires déposer leur mandat en cours de mandat.
Oui, je suis absolument d'accord avec ce que vous évoquez, en disant qu'il y a de plus en plus...
Heureusement qu'il y a Action Logement pour vous aider, indépendamment des outils politiques.
Heureusement qu'il y a Action Logement, d'ailleurs, merci à Action Logement pour l'aide précieuse qu'il nous apporte. Mais on se rend compte qu'on a de plus en plus de responsabilités, de choses qui sont transférées et toujours une DGF qui est dans une situation des plus difficiles. Moi, sur la ville de Grasse, on est sous-doté et je demanderai à ce que notre DGF soit réexaminé, réévalué par rapport à d'autres villes de même strate. On est sous-doté et on est dans une situation qui est très difficile parce qu'on nous demande d'absorber un certain nombre de missions, de responsabilités, sans pour autant nous donner les moyens financiers pour le faire. Donc à chaque fois, c'est la quadrature du cercle qui est compliquée à trouver. C'est des nouvelles missions qu'on demande aux communes de porter. Et en face, on n'a pas les moyens de le faire. Donc c'est toujours une situation difficile, avec souvent comme solution le levier fiscal, ce que nous ne voulons pas faire. Parce que je crois que
bien sûr,
nos concitoyens en ont ras-le-bol de la fiscalité.
Mais c'est le sujet, justement. Je voudrais qu'on dise un mot tout à l'heure sur votre collègue François Rebsamen, sur son rapport, et les deux mesures qui ont été retenues et annoncées au Congrès de l'USH par le Premier ministre. Et l'intergénérationnalité, c'est-à-dire le rapport intergénérationnel entre les soucis qu'ont les jeunes actifs et les personnes qui vieillissent en copropriété pour créer justement ce lien social. À quoi ça peut ressembler, Véronique Binet? Comment on peut aborder? Parce que on ne peut pas simplifier un sujet complexe qui est démographique, qui est anthropologique, qui est venant d'une transformation de la société moderne. Même le gouvernement ne peut pas tout faire, on est d'accord là-dessus. Je veux dire, il faut, à un moment donné, il faut poser les choses. Voilà, comment on peut prendre le sujet de ces jeunes qui ont besoin d'une identité sociale, et le premier marqueur social, ça reste le logement par rapport à l'emploi, et les personnes qui finalement finissent une carrière dont on espère que finalement cette retraite soit la plus harmonieuse possible.
Alors, on n'a pas la solution à tout, mais c'est vrai que l'exemple qu'on est en train de travailler, et on a d'autres puisqu'on a un objectif d'en réaliser un certain nombre par an, c'est de dire de travailler sur cette idée de résidence intergénérationnelle. C'est-à-dire que les anciens, si je peux le dire comme ça, ils ont encore une utilité auprès des jeunes. Et on travaille en logement social. Et en fait, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire les locataires vont payer leur loyer de logement social, parce que comme le disait Eric tout à l'heure, ils ont des ressources relativement faibles quand on arrive à la retraite, et dans notre département encore plus peut-être que dans d'autres lieux, notamment dans les villes et dans les métropoles. Donc c'est de se dire on a des espaces communs qui sont partagés par les jeunes salariés les jeunes qui débutent dans la vie, et comment on fait ensemble pour faire sens et aussi partager des choses. Et donc nous, la décision qu'on a prise dans le cadre de nos résidences intergénérationnelles, c'est de mettre à disposition un personnel, non pas qui soit un animateur, puisque là il y a d'autres, donc quand on est dans une résidence senior c'est différent, mais dans ces résidences intergénérationnelles où proportionnellement il y a 40% de personnes âgées et puis une vingtaine de pourcents de jeunes actifs, et le reste on souhaite que ça puisse être des familles et des salariés. Et comment on fait pour s'entraider, comment on fait pour pouvoir travailler, et il y a un personnel qui est sur place qui permet de faire les liens avec le territoire, avec ce qui existe déjà, et comment on partage la vie ensemble. Et on ne vient pas par hasard dans ces résidences, on vient partager aussi la manière de vivre ensemble. Voilà, on n'est pas que des voisins, on partage aussi des choses. Et on évoquait tout à l'heure l'idée d'avoir aussi un jardin partagé, aussi un lieu où on va se poser. Voilà, l'idée, c'est vraiment, elle est toute simple, elle paraît toute simple, mais pas si simple que ça à mettre
non,
en œuvre.
Non, c'est pas si simple que ça, et il faut que ça puisse marcher. Donc, on me fait des grands signes, comme quoi il faut que je rende que je rende l'antenne, mais je veux quand même qu'on fasse un dernier tour de table, si vous voulez bien, parce que voilà, j'aime bien la bonne tradition qui va bien. Un tour de table et on va conclure. Mario, tout à l'heure, c'est vous le grand témoin, finalement, de la table ronde, quelque part. Parce que c'est vous qui avez aussi les financements, hein, faut dire aussi. Voilà.
Ça compte aussi. Hein.
C'est important d'avoir un ami comme Mario Bastone, hein, quand même. Alors, tout à l'heure, on a vu, ça fait 2 ans maintenant que vous avez créé NAL. Vous avez un objectif, on l'a vu, ambitieux. Hein, 150 acquisitions, c'est pas neutre, hein, à l'horizon de 3-4 ans. Quand vous écoutez les élus locaux que vous accompagnez aujourd'hui, Moi, je dis, franchement, ça me rassure d'écouter des élus locaux qui ont cette ambition, cette passion pour leur territoire, partager leur énergie.
Ah, complètement. Nous, aujourd'hui, avec l'expérience qu'on avait déjà sur Nouvelle-Aquitaine avec l'OGEVI, qui est une filiale et qui a été ensuite récupérée pour Enéal. Avec Enéal, aujourd'hui, sur tous les territoires, les élus locaux, ils connaissent parfaitement bien leurs problématiques. Ils savent ce dont ils ont besoin. Donc, nous, notre première démarche, c'est d'aller vers eux et de les écouter. Et là, on va trouver des réponses. Alors, sur les établissements médico-sociaux, effectivement, on a des fonds propres qui nous permettent de faire ces fameux effets de levier, trouver ces équilibres.
Je rappelle qu'on vous a doté de 350 millions d'euros de fonds propres.
350 millions d'euros de fonds propres pour acquérir 150 établissements et les réhabiliter sur les 10 ans.
C'est génial.
Donc, c'est grâce à ça qu'on va trouver ces fameux équilibres que jusqu'à présent, il était compliqué de trouver sur ces opérations-là. Trouver à la fois de l'immobilier, du bâti de qualité et en face de ça, des redevances d'équilibre et des prix de journée adaptés aux revenus modestes. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc aujourd'hui, oui, on a cette écoute-là, on a ces besoins-là. Quand une maire nous dit, moi, j'ai besoin de tel type d'habitat, j'ai aujourd'hui des personnes qui vieillissent, qui ont besoin d'une résidence autonomie, mais aussi d'un habitat un peu plus ouvert, qui est de la résidence intergénérationnelle. On peut lier tout ça. On peut travailler sur les résidences autonomie, sur l'établissement avec Enéal, et sur les résidences intergénérationnelles avec la filiale locale.
Mais bien sûr.
Ça, on structure, on construit.
C'est justement le désilotage dont vous parliez tout à l'heure.
Absolument.
C'est une coopération multiple qui permet d'aboutir à des projets.
Et de trouver des solutions.
Des solutions. Jérôme Biot, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à la configuration à la fois de votre territoire, des objectifs que vous avez fixés? Quelles sont les grandes lignes que vous êtes fixées? Et bien évidemment, je vais être obligé de vous poser cette question. On a quand même une élection majeure au mois de mai prochain. Il y a une chose, moi, que parfois je déplore, et je vous le dis très franchement. Voilà, on va laisser aller Mario. Merci. Voilà, Mario qui a un rendez-vous. C'est un super plateau. C'est la politique du logement dans le débat public à l'aube des présidentielles. Jérôme Biot, est-ce que vous êtes partant pour dire qu'il faudrait qu'on ait un grand débat public sur le logement et l'aménagement du territoire, enfin, dans le débat à l'aube d'une élection majeure comme celle des présidentielles?
Je crois que c'est essentiel. Et il est essentiel de se poser ces questions, d'en débattre, d'avoir un regard sur ces sujets, que chaque personne qui va évoquer un positionnement national avec des ambitions nationales puisse parler avec les maires, parler avec les élus locaux en disant qu'est-ce qui va être proposé dans ces sujets à la fois de restructuration de l'habitat ancien dans les centres historiques, à la fois dans l'aide pour structurer une approche de mixité dans des propositions pour financer ces sujets sur les territoires. Et je pense que ce sera sain que chaque candidat puisse évoquer, présenter, décliner ça aux élus des territoires, parce que ça doit faire partie aussi des éléments qui permettront de construire une politique nationale.
Jérôme Biot, est-ce que vous avez déjà fait votre choix?
Écoutez, moi, au fond de moi, j'ai bien fait mon choix, oui, effectivement.
D'accord. On n'en saura pas plus?
On n'en saura pas plus.
Bon, je reviendrai, hein, c'est promis.
Avec plaisir. Bon. Venez à Grasse, je serais vraiment heureux
de vous recevoir. On va venir. Voilà, je vous le dis, les amis, vous savez, dans notre Tour de France qui s'appelle Les Clés de la Ville, vous savez, cette collection que nous avons sortie avec nos amis du Figaro Immobilier, nous avons prévu de faire les Tours de France. On en est déjà à plus de 20 villes faites. On vous avait dit, les amis, qu'on ira aussi dans des villes qui ne sont pas les grandes villes, on va pas les forcément, Bordeaux, Lyon, Paris, vous voyez, bon, à part les 15 plus grandes villes, on va aller bien évidemment à Grasse. En tout cas, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et je vous le dis, ça a été un choc, parce que j'ai découvert une réalité qui a beaucoup, beaucoup cassé les clichés que j'avais sur votre ville. Et effectivement, je les avais, je le reconnais, comme tout Parisien qui a ses défauts, un Parisien qui n'est pas forcément d'origine, hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on viendra. Et on viendra surtout voir comment vous bossez sur le territoire. Parce que je pense que c'est intéressant qu'on aille, comme dirait à l'époque un ancien président de la République, aujourd'hui décédé, qui s'appelait Jacques Chirac, il faut aller au cul des vaches, voilà, pour aller voir les personnes. C'est bête à dire, mais c'est important de prendre cette empreinte territoriale. Éric Delahaye, justement, pour conclure cette table ronde. Alors, c'est intéressant, justement, tout à l'heure, on parlait du statut de l'élu, et on s'amusait à comparer... Je sais que c'est un sujet parfois un peu tabou, mais on comparait les indemnités des maires par rapport aux parlementaires et qu'on voyait le poids pénal, le poids de responsabilité qui pèse sur vos épaules. Et je vais vous dire franchement, je vous le dis, hein, je suis journaliste, en plus je suis indépendant, je peux tout dire.
C'est génial.
J'ai halluciné de voir à quel point vous étiez maltraité. Je vous le dis, honnêtement. Hein, quand je vois... ce que vous avez et le poids de vos responsabilités, moi je me dis que pour être maire, c'est entrer au séminaire, quoi. C'est un sacerdoce total.
Oui, c'est un peu ça, là.
la fonction est passionnante.
C'est vraiment assez passionnant,
une fonction passionnante. C'est une fonction de proximité au plus proche de nos concitoyens. Et on voit le résultat des politiques qu'on met en place. Depuis 3 ans qu'on a lancé l'opération Cœur de Ville, qu'on a lancé...
Est-ce que vous administrez sur revitalisation, Eric?
Oui, majoritairement, vraiment oui, bien
d'accord.
sûr.
Okay.
Après, le résultat, il se manifeste lors de l'élection municipale. Maintenant, c'est aussi une fonction qui est extrêmement exigeante, qui pose de multiples contraintes en termes de disponibilité, de responsabilité, évidemment, de responsabilité, y compris sur le plan pénal. Alors on s'entoure effectivement d'expertise, de cadres qui sont là aussi pour nous apporter tous les conseils nécessaires.
Mais est-ce que vous avez un statut Est-ce qu'il y a un statut de l'élu?
Oui, il y a un statut de l'élu. Enfin, quand on est peut-être pas pour le maire d'une petite commune, un maire rural qui, lui, a très peu de moyens à sa disposition et a des difficultés de statut. Pour les maires de villes comme les nôtres, oui, il y a un statut quand même de l'élu local qui existe et qui nous permet d'exercer nos fonctions pleinement et entièrement.
Je vous trouve vraiment très gentil. Hein.
Non, mais, je pense.
Parce que quand je pose la question aux maires, je tombe sur des maires un peu énervés. Puis ils ont raison.
On n'est pas suffisamment protégé, par contre, parce que effectivement, on est notamment sur les réseaux sociaux.
Vous avez un administré qui vous appelle à 4h du matin le dimanche parce qu'il y a une poubelle au milieu de la rue. On appelle le maire.
Oui, mais ça ne me dérange pas. Ah moi, je suis très proche sur les réseaux sociaux, donc on me contacte par Messenger, via Facebook, etc., WhatsApp ou autre.
Okay.
Mais ça me permet d'avoir ce contact direct avec le citoyen, de ne pas avoir le filtre du secrétariat ou des services qui n'ont pas donné l'information.
Eric, vous ne saturez pas?
Parfois, ça arrive.
Non. D'accord. Alors, voilà,
ça me permet d'avoir le pouls de l'opinion de la population par rapport aux problèmes qui peuvent exister sur le terrain.
Ça vous rend plus humain, mais c'est intéressant. Alors justement, même question que pour Jérôme. Est-ce que vous espérez qu'il y ait un vrai débat de l'aménagement du territoire et du logement pays. Et pourquoi c'était absent pendant si longtemps?
C'est absolument indispensable. On peut quand même reconnaître le mérite au gouvernement d'avoir lancé ce grand programme national Cœur de Ville sur les villes moyennes.
Ah, c'est clair.
C'est vrai.
C'est clair. Et il faut rendre grâce à quelqu'un dont on n'entend plus beaucoup parler parce qu'il n'est plus aux affaires en tant que ministre, c'est Jacques Mézard.
Absolument. Hein,
qui est le père spirituel du plan Action Cœur de Ville que j'ai eu le plaisir d'accompagner dès le début.
Que j'avais rencontré.
Et rendre grâce aussi au ministre du Logement à l'époque en poste qui s'appelle Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture, qui a été... un élément moteur. Je le dis parce que c'est vrai et je l'ai vu très très concrètement.
Donc il faut au-delà reconnaître l'aide du gouvernement et surtout d'avoir mis en place ces partenariats avec Action Logement et la Banque des Territoires.
Ils sont vraiment
des partenaires très efficients, très réactifs, très souples.
Ouais.
Ce ne sont pas des usines à gaz.
Il n'y a pas d'empilage normatif, il n'y a pas d'empilage de procédures. Vous avez des rapports
concrets. Par rapport à l'administration, effectivement. Oui. C'est vraiment très différent et ce sont des véritables accélérateurs pour nos territoires. Moi, c'est plus de 2,2 millions déjà engagés par Action Logement sur la production d'environ 70 logements.
Ah, quand même.
Sont aujourd'hui des friches. J'ai une ancienne clinique qui, depuis 15-20 ans, est fermée sur la ville près de la cathédrale, qui aujourd'hui a trouvé un investisseur accompagné par Action Logement qui va permettre de sortir 20 logements de qualité. Ce sont vraiment des friches qui étaient là depuis très très longtemps sur la ville et qui aujourd'hui vont faire l'objet de réhabilitations lourdes grâce à cet effet levier apporté notamment par Action Logement. Et les moyens d'ingénierie de la Banque des Territoires aussi qui sont mobilisés autour de nous sont particulièrement importants. Par contre, là aussi, on a des sujets de friction et de discorde qui sont quand même assez importants avec l'État. Ça a été la réforme sur le logement social, avec la RLS, sur les OPH.
Ils sont revenus.
Notamment. Enfin, aujourd'hui, dans les caisses de nos OPH, sont quand même effectivement plusieurs millions d'euros en moins, ce qui nous oblige aussi à vendre une partie du patrimoine, à trouver de nouvelles ressources. Ce débat sur le logement, il faut l'avoir. Et sur l'avenir...
Avez le Premier ministre qui dit finalement qu'ils étaient excédentaires et c'est normal qu'on ponctionne...
Non, mais justement,
le problème de la péréquation, encore une fois, c'est de penser que tous les OPH, par exemple, sont... Non, c'est pas vrai. C'est une réalité auquel on s'est confronté. Parce que nous, les journalistes, nous avions aussi cette réalité parisienne. Et c'est lorsque nous enquêtions qu'on a observé des très grandes disparités, voire même des grandes difficultés à ce sujet.
Absolument.
Voilà, il faut aller vivre à Lens, il faut aller à Grasse. Voilà, je veux dire, franchement, parce que nos territoires ont un talent. Moi, je veux dire, depuis que je voyage toutes les semaines, je découvre une France extraordinaire. Et je ne le dis pas vraiment, et je peux vous le dire, personne ne m'a payé pour le dire. Hein, donc, on peut le dire très, très franchement. On peut aller d'ailleurs sur le site de la ville de Lens, on peut voir beaucoup, beaucoup de choses. Une chose est sûre, c'est qu'on viendra, à vous voir. Avec grand plaisir. Alors demain, il y a en plus une élection importante pour vous.
Oui, absolument. Maires.
C'est le successeur de François Baroin.
Tout à fait.
Il y a deux candidats en lice, me semble-t-il. Quelqu'un que vous connaissez bien, Jérôme, oui. Me semble-t-il aussi. Bon, donc je connais déjà votre choix, mais vous espérez aussi que le nouveau président de l'AMF, de l'Association des maires de France, sera aussi dans la continuité de la politique développée par François Baroin, mais aussi l'initiateur un peu d'un nouveau souffle,
oui,
aussi donc, demandé par vos collègues, vous l'espérez aussi.
Absolument, il faut que ça soit... l'homme le plus consensuel possible, un homme d'expérience qui connaisse bien l'association des maires de France, voilà, et qui puisse faire ce lien entre nous tous, qui soit quelqu'un qui a aussi l'expertise des collectivités locales et qui les connaît bien depuis très très longtemps.
C'est intéressant, cette élection à 6 mois des présidentielles.
Hein. Absolument.
Il y a une espèce d'alignement des planètes,
oui, complètement.
qui va peut-être faire naître des vocations. Véronique Binet, alors justement, alors vous avez une action qui est intéressante parce que finalement vous avez les deux éléments. Vous êtes à la fois une boîte à outils, mais aussi une politique, quelque part. Vous êtes inscrit dans votre territoire. Comment vous voyez les choses, justement, à l'aube d'une présidentielle qui est importante, quand même? Vous rappelez, à une époque, pour ceux qui ont fait un peu d'histoire de la politique, il y avait un grand commissaire au plan.
Oui.
Il y a eu un grand commissaire au plan. D'ailleurs, sa fille est ministre, puisque c'est Emmanuel Wargon. Et son père s'appelait Lionel Stoléru, ouais, qui a été un grand, grand monsieur du plan. Est-ce que vous, Véronique Binet, vous pensez qu'un plan est nécessaire pour aménager le territoire et surtout laisser les territoires, vous les élus locaux, aménager votre territoire? Qui le connaît mieux que vous, les élus? Alors, votre avis?
Je vais vous faire une réponse. Effectivement, je pense qu'il y a eu une réforme à un moment qui donnait au territoire la légitimité, mais ce n'est pas allé jusqu'au bout.
Alors,
en fait,
hein,
moi, ma profession, je suis urbaniste de formation, donc j'ai suivi ça de très près.
Ah, vous devez y aller.
Et en fait, on est à mi-chemin.
Je vais vous laisser aller, Jérôme, parce que je crois que vous avez un rendez-vous. Jérôme Biot, maire de Grasse.
Merci de m'avoir accueilli.
À bientôt,
et
on se retrouve bientôt.
À très bientôt sur Grasse.
À Grasse, voilà. N'hésitez pas, c'est les joies du direct. À bientôt, Jérôme. Merci.
On n'est pas allé jusqu'au bout de la décentralisation. On va le dire comme ça, on ne va pas entamer le débat, mais en fait, c'est ça. L'État garde une partie, notamment des financements du logement social, puisque c'est quand même notre sujet. Et c'est une délégation, enfin, les politiques, voilà, il n'y a pas... Alors, est-ce qu'il faut un grand plan à l'échelle nationale? J'en suis pas certaine. Je pense qu'il faut un plan qui permet de déléguer et de mailler l'ensemble du territoire.
Un plan qui vous dise, voilà. Éric Delay, vous savez quoi? Vous êtes maître de l'aménagement de votre territoire parce que vous le connaissez bien.
Alors,
et on va s'adapter. Et il est différent de région en région.
Tout à fait.
C'est pas ça.
Mais il faut quand même un lien. Et puis, il y a la question des finances, quand même.
Oui, toujours.
Donc, il faut que nationalement, si on lui dit qu'il est maître et qu'on ne lui donne pas les moyens et que tous les moyens sont concentrés sur là où il y a les entreprises, va poser un problème. Il y a une vraie péréquation.
C'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci, Véronique Binet. Alors, je rappelle, pour ne pas écorcher votre titre, vous êtes directrice de Claisance Alter Ego et déléguée territoriale dans l'Aisne. Merci d'être passée par ce plateau. Merci. Un grand merci à Éric Delay.
Merci beaucoup.
J'aime bien votre style. C'est décontracté, simple et passionné. Il y a quelque chose qui est dans la passion. Alors, j'ai beaucoup aimé la façon dont vous réagissez aux questions, parce qu'on sent que voilà, quelque part, il y a un peu de retenue. Mais voilà, c'est normal, vous faites de la politique. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut que vous puissiez continuer comme ça et qu'on vous en donne les moyens. On prendra l'engagement, c'est promis. On vient vous voir passer une journée à Laon pour parler de ce territoire. Je rappelle juste à ceux qui nous écoutent, c'est à 1h30 de Paris. C'est magnifique. Et j'ai même calculé le nombre de jours de pluie par rapport à Paris. Mais en fait, il y en a moins à Laon. C'est plus agréable.
Il y a un microclimat. Il y a
un microclimat, il y a des golfs vachement sympas, il y a des maisons. C'est le niveau de vie
c'est
et la qualité de
vie. C'est un patrimoine exceptionnel qui est très peu connu, malheureusement.
Mais oui, la qualité de vie, et en plus, c'est très bonne. Je vais vous dire, en plus, on peut acheter des produits frais, etc. C'est pas très cher. Et c'est vraiment à côté. Bon, le seul truc, ce qui serait bien, c'est d'avoir une ligne à grande vitesse. Alors, on peut en rêver.
On arriverait trop vite.
Ouais.
Ou en tout cas un TER
Non, mais parce que s'il y avait une ligne à grande vitesse, ça mettrait l'an à quoi, 45 minutes de Paris. Ça serait génial. Merci à tous.
Merci.
On continue notre programme, toujours ici au SMCL.
Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021 à Paris Expo, Porte de Versailles. En partenariat avec Action Logement sur Radio Immo et Radio Territoria.